Comment est-ce que je faisais pour me remotiver pendant mes gros moments de doute durant ma formation d'ergo? C'est cette question que m'a posée Jeanne sur Instagram et que j'ai trouvée particulièrement intéressante car il y a beaucoup de choses à dire et certaines choses que je ne vous ai pas forcément partagées ici. Des choses que j'avais envie de partager avec vous depuis très longtemps, mais comment dire, c'est pas toujours facile hein, de se montrer avec autant de vulnérabilité face à ses doutes, face aussi aux critiques qu'on reçoit. Mais ces derniers temps, je me sens un peu plus à l'aise avec tout ça et aussi avec le fait d'échouer. Donc j'avais envie de me poser avec vous pour partager cet épisode. Des réflexions, peut-être des conseils, mais surtout des partages d'expériences. Alors, bienvenue, vous êtes ici dans un espace où je suis ravie de vous accueillir. Je suis Isa et nous sommes dans Yogis Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, de la vie et où on partage des réflexions sur la santé, toujours de façon, je l'espère, nuancée. Et aujourd'hui, donc, c'est une réponse à une question particulièrement importante parce que ça rejoint à la fois les doutes, le fait d'être face à l'échec ou en tout cas face à quelque chose où on se sent un peu inconfortable et aussi tout simplement la gestion de nos états d'âme. Et ça peut être le travail d'une vie. Avant de continuer, c'est vrai que ce podcast ne vit que grâce à vous, que grâce à vos écoutes, à vos partages. Donc pour l'encourager, si vous l'aimez, c'est très important que vous vous abonniez, que vous le partagez autour de vous, que vous lui donniez une note aussi et que vous n'hésitiez pas à commenter. D'avance, un grand merci pour votre soutien et votre écoute. Je vous savais que j'aime bien placer le contexte. Et là, j'avais envie, avant qu'on rentre vraiment dans plutôt tout ce qui va être partie pratico-pratique, que je vous explique mon cheminement par rapport au doute, à la critique, à l'échec aussi. Et je pense que c'est bien de commencer par le commencement. Durant mes études, donc vous le savez, sinon je vous la fais très simple, j'ai repris à 31 ans des études d'ergothérapie, donc je suis repassée dans un cursus initial. Auparavant, donc j'étais prof de yoga à plein temps et encore auparavant, presque dans une autre vie, j'ai été fonctionnaire dans la fonction publique. Et donc c'est vrai que me reconfronter aux études à 31 ans, on en avait parlé avec Clémence Rébusy, qui est prof de yoga et kiné, qui elle aussi a repris ses études entre guillemets sur le tard. C'est assez particulier de se retrouver dans cette position d'élève, d'étudiante, parce que déjà on n'a plus l'âge en quelque sorte, on est en décalage avec les autres, et aussi, et on s'en rend pas compte je pense, ou peut-être un petit peu, mais je trouve que c'est encore plus exacerbé quand on est un peu plus âgé on va dire, mais quand on est au collège, au lycée, on est vraiment très soumis à la critique. Sans cesse les profs nous jugent, on nous note, et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient presque un état habituel, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de recevoir des critiques, et en fait, à un moment, on n'est plus habitué, c'est-à-dire qu'on prend le milieu professionnel, au début, bien sûr, on va devoir apprendre, donc on va être dans une phase d'erreur, et en fait, au fur et à mesure, on arrive à avoir quand même une certaine compétence, et donc en fait, le fait de se retrouver dans un moment où on est incompétent, vu qu'on est là pour apprendre, on est en formation, et ça c'est très important de le garder en tête, en fait c'est vrai que ça remet finalement une ambiance qui n'est pas toujours très agréable. Je vous ai souvent dit c'est super de reprendre les études, je suis très reconnaissante, etc. Mais je voulais partager, peut-être pas assez d'ailleurs, que c'était aussi extrêmement inconfortable, parce que moi je me rappelle d'une ou deux fois, je suis vraiment très gentille en disant ça, il y a eu plusieurs fois où en cours, je me disais, mais j'ai plus l'âge pour ça, par rapport à un prof qui criait sur la classe, parce que la classe, au sens global du terme, ne s'était pas comportée, peut-être de la meilleure manière ou quoi, parfois de façon juste, parfois de façon injustifiée, et c'est vrai que le fait de ne pas se rebeller, le fait d'essayer de rester dans les normes, on va dire, ça a pu parfois me faire un petit peu bouillir de l'intérieur, parce que finalement, quand on est élève, on nous demande quelque part d'obéir, et on nous demande aussi de rester stoïque face aux critiques qu'on peut recevoir. Donc tout ça, c'est un petit peu... j'ai revécu ça, on va dire, avec mes toutes premières moments en ergothérapie, et puis ensuite, ça a duré 3 ans. Et c'est vrai que la première année, je pense que c'est passé un peu inaperçu pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que premièrement, ça a été une période très compliquée, les 6 premiers mois pour plein de choses. On avait déménagé, on arrivait dans le Var. J'avais la chance d'avoir ma sœur pas très loin. J'ai eu un souci familial. Enfin voilà, j'ai eu une perte dans ma famille. Donc en fait, c'est vrai que ça a été assez compliqué de gérer tout ça, plus les premiers partiels. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas eu de partiel, enfin, on n'a pas eu de contrôle avant nos premiers partiels. Donc en fait, c'était hyper anxiogène de se dire, ben, en fait, on ne sait pas si on a les capacités ou pas. Et j'avais l'impression de travailler énormément, et je travaillais énormément, mais en fait, j'étais un peu dans l'aveugle. Je me souviens, en fait, si je dois vous redire ces 6 premiers mois, d'être dans le brouillard. Brouillard au niveau... Ben finalement, du temps que je passais à étudier, où je voyais peu de choses, à part mes cahiers, mes livres. Et ensuite, brouillard dans le fait que je travaille, ok, mais qu'est-ce que vont dire les partiels? Et ça a été extrêmement difficile à gérer. Les partiels se sont passés, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. Enfin, vraiment, je crois qu'on se souvient plus trop des moments inconfortables de nos études. Et ensuite, quand on les revit, ben en fait, c'est presque amplifié, j'ai envie de vous dire. Et les partiels se sont bien passés. Et quand je dis bien passés, c'est là où je remarque quand même la problématique. C'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'importance à la note. Donc, j'ai eu des bonnes notes. Mais à côté, ma santé mentale, ma santé même physique, avait été quand même carrément atteinte. Mais au final, le plus important, c'était d'avoir les bonnes notes, de passer, de pas avoir de rattrapage, etc. Et en fait, je me rends compte de la problématique, c'est-à-dire que je me trouve peut-être même hypocrite, c'est-à-dire que je vais souvent dire à quel point c'est important de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, mais au final, quand je suis prise dans ce système où il faut bien faire, où on attend de nous aussi hein, qu'on réussisse, et la réussite est associée à des notes, ben en fait, je suis vraiment prête à mettre de côté ces choses qui sont si importantes que sont la santé physique et mentale pour finalement réussir. Et je rêve peut-être d'un système qui inclut davantage bah, l'équilibre de vie et aussi l'équilibre émotionnel. Et finalement, peut-être qu'en termes de résultats, ça s'est bien passé, mais en termes d'équilibre et de, comment dire, d'équilibre émotionnel, bah, finalement, ça s'était pas très bien passé. En deuxième année, on a eu une partie avec la psychiatrie qui a été assez lourde et on a eu des TD qui étaient tout simplement horribles. Je ne saurais pas vous dire autrement. Et où il fallait chercher assez loin finalement dans notre histoire. Donc là, revivre des choses qui ne sont pas forcément très agréables, parler de certaines choses assez privées aussi, ça a été un peu bizarre pour être tout à fait honnête. Et là, en fait, là aussi, il y a de nouveau eu un stress, un moment de doute assez intense, et qui là est passé finalement avec le temps. C'est-à-dire que je m'inquiétais, le niveau de stress des partiels avait un peu diminué, et finalement, hop, ça s'est passé plutôt avec le temps. Je savais que j'avais déjà vécu ça une fois, donc je me dis, ben voilà, je vais le vivre une seconde fois malgré ce contexte un petit peu particulier. Et la troisième année, donc c'était la dernière année, et là où je pensais que j'allais avoir moins de pression, que c'était justement la fin, que ça y est, on était sur la dernière ligne droite. Gros moment de doute. Les pires moments de doute, ça a été mon avant-dernier stage. Bah, bizarrement, à l'endroit où je travaille aujourd'hui. Un stage extrêmement intéressant, passionnant, mais hyper stressant. Très, très, très stressant. Et où je me suis mis une pression, encore une fois, ça vient vraiment de moi, où je me suis mis une pression assez importante et où à un moment pendant le stage, un petit peu avant la mi-stage, je me suis dit je risque de pas le valider. Pour diverses raisons. Et là, en fait, ça a remis plein de choses en question. Je me suis dit, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça va bien se faire? Etc. Ma tutrice m'avait fait une remarque qui, au demeurant, était tout à fait juste hein, par rapport à ma distance thérapeutique. Et c'est vrai que ça a remis énormément de choses en question. Et le stage, au final, s'est bien terminé, tout s'est bien passé, encore une fois, hein, si on s'attache aux résultats. Et la dernière ligne droite, donc ça a été le mémoire. Et là, j'ai plus eu de moment de doute sur le fait que je pensais à arrêter. Je savais de toute façon que j'allais aller jusqu'au bout. mais je savais pas en fait comment j'allais réussir à rendre un résultat final dont je puisse être le plus fière possible. Et c'est très compliqué hein, cette idée de fierté, c'est-à-dire que on a toujours l'impression qu'on peut faire plus. En tout cas, moi, ça a toujours été un petit peu ma motivation. Et je pense que dans certains domaines, c'est super. C'est super intéressant parce que je suis tout le temps à cette recherche de m'améliorer. Mais à un moment, il faut savoir lâcher prise. Et j'avais travaillé avec une de mes camarades de classe au cours de ces 3 années d'études sur un dossier. Et je me souviens qu'à un moment, je lui dis « Mais tu penses pas qu'on pourrait reprendre ça ?» Et elle me dit « Bah, on peut toujours. Mais là, franchement, le résultat, si on le rend comme ça, on va passer très bien. » Et on est passé très bien. Et en fait, le temps que moi, ça m'aurait pris, ça nous aurait pris collectivement de refaire la partie que je voulais faire, peut-être qu'on y aurait passé, je sais pas, encore 7 heures, pour au final, si on regarde au niveau du résultat, gagner un point de plus et perdre 7 heures de temps de vie qu'on a pu passer. Là, pour le coup, moi, j'étais en pleine formation de yoga en plus, des études, bien sûr. Donc, du coup, ça me permettait de plus me consacrer au yoga. Donc, c'était super. Et c'était vraiment grâce à cette fille qui m'a fait prendre conscience que parfois, en fait, il y a le moment où tu lâches. En fait, il faut lâcher sur cette envie d'être parfait, parfaite, d'aller au bout du bout de ce qu'on pense pouvoir donner. Donc ça a été beaucoup de moments de doute. Au niveau des critiques que j'ai pu recevoir pendant mes études, ça a été plutôt des remarques sur des choses plutôt techniques, on va dire, pendant les cours. En stage, ça a été souvent sur ma distance émotionnelle, relationnelle, le fait que j'ai trop tendance à être impactée par les histoires de vie des patients. Donc ça, c'est encore quelque chose hein, sur lequel je travaille aujourd'hui. Parfois, certaines compétences en termes de capacité à voilà, rédiger certaines choses. Mais on va dire que c'était toujours sur des compétences assez bien identifiées, assez spécifiques. Donc je trouve que c'est plus ou moins facile d'analyser la critique de façon relativement distanciée. C'est-à-dire que c'est une compétence. Bah, une compétence, en fait, en travaillant, en la revoyant, on arrive plus ou moins à la régler. Par rapport à la distance émotionnelle, ça, c'est entre moi et les autres. Donc ça, c'est quelque chose de plus compliqué, je pense, à régler. Et je pense que c'est aussi un domaine qui est, entre guillemets, un peu plus flou. C'est-à-dire qu'on va pas tous accepter d'être impactés émotionnellement de la même manière et on va pas tous vouloir non plus s'investir émotionnellement de la même manière. Pour certaines personnes, bien faire son métier, ça va être réussir à faire preuve d'empathie, bien sûr, d'écoute active, de non-jugement, mais avec une distance émotionnelle assez importante. Et pour d'autres, dont je fais partie, c'est faire preuve d'empathie, pareil, écoute active et non-jugement, mais s'autoriser finalement à mettre de l'émotion. Et ça se discute. Je pense vraiment qu'il n'y a pas une réponse à tout ça. On est tous très différents, donc c'est à nous aussi de voir ce qu'on est capable de supporter aussi. Et moi, je réalise, donc là je ne suis plus en études, je travaille en tant qu'ergothérapeute, et je réalise dans mon parcours actuel, dans mon cursus, que peut-être certains endroits ne sont pas faits pour moi, car la charge émotionnelle va être beaucoup trop lourde et beaucoup trop importante à gérer, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut bien prendre en compte quand on est dans des moments de doute, un petit peu de désespoir aussi, arriver à se dire « Ok, mais est-ce que ma place est ici ?» Et une dernière chose très importante avant de finir un petit peu sur cette partie plus partage d'expérience, c'est le fait que, là je parlais des critiques sur les réseaux sociaux, donc ça fait, on dirait pas mais ça fait longtemps, ça fait 6 ans que j'ai fait ma première vidéo YouTube, et c'est super, je suis trop contente, mais du coup c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de vidéos, de yoga mais autres aussi. Et je me souviens, les premiers méchants commentaires, les premières critiques, ça a été horrible pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je continue à en recevoir. Hein. J'ai des bons commentaires, des moins bons, j'en ai des neutres, j'ai des critiques constructives, etc., etc. C'est vrai que quand je suis face à un commentaire un petit peu négatif, très souvent, je vais avoir tendance à remettre en question mon travail. très souvent, je vais accorder beaucoup d'importance à ce commentaire et je vais me dire « aïe aïe aïe, faut peut-être que je refasse, etc. » Beaucoup plus qu'un commentaire positif. C'est-à-dire que si j'ai un commentaire positif, j'ai un petit peu plus... pas le vivre comme un non-événement, mais je vais pas forcément être là en mode « Ah, mais c'est génial ce que j'ai fait, etc. J'ai plus rien à travailler dessus. » Non, je vais quand même me dire bah, « C'est bien. » Mais limite, ça me met une pression aussi en me disant « Ah, il faut quand même que je continue à faire aussi bien. » Donc, vous voyez, c'est pas toujours très sain. Et en fait, c'est normal que le commentaire négatif nous heurte plus. Dans le livre « Le cerveau de Bouddha », ils expliquent ce biais de négativité qui est hyper important, le fait de finalement d'accorder plus d'importance aux choses négative finalement qui nous arrive, c'est tout simplement parce que d'un point de vue de l'évolution, ça fait sens. Quand il nous arrive quelque chose de négatif ou de problématique, bah, on a tout intérêt à comprendre pourquoi ça nous est arrivé, solutionner le problème pour faire en sorte qu'à l'avenir, ça ne nous arrive plus. Donc le fait d'accorder un peu plus d'importance au négatif, moi me choque pas, dans la mesure où on est fait pour ça. Mais maintenant, il faut aussi prendre un petit temps de recul pour analyser. Et c'est vrai que face aux commentaires négatifs que je peux recevoir dans le cadre vraiment plus mon activité professionnelle en ligne, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose au niveau professionnel en tant qu'ergo que je me rends compte. Et en fait, quand j'y réfléchis, peu importe qu'on soit prof de yoga, postier, pharmacien, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et il y aura des choses que les personnes vont adorer de nous, et des personnes qui vont juste être neutres, et des personnes qui ne vont pas du tout apprécier notre approche. Et c'est hyper important de prendre en compte cet élément. Parce que parfois, c'est la même chose quand on est face à des profs, ou face à des collègues, ou face à des supérieurs hiérarchiques. Peut-être que c'est pas nous vraiment le problème, c'est-à-dire que si c'est pas un problème de compétence, etc., parfois c'est un problème de personnalité. Et là, malheureusement, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Soit peut-être trouver un moyen pour mieux s'entendre, soit finalement se dire « Ok, c'est juste ma personnalité ». Comme nous, parfois, ça peut nous arriver, on dit « Bah, je sens pas cette personne, c'est pas grave, on est humain, ça nous arrive ». Voilà, prendre en compte, je trouve, cette personnalité, c'est très 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 important. Je pense, pour justement avoir une relation un petit peu plus, pas détachée, mais saine pour nous, face aux critiques et aux moments de doute qu'on peut traverser. Tout cela nous amène donc à la deuxième partie de cet épisode qui va être les solutions. Alors les solutions, vous voyez là je m'avance un petit peu, en tout cas les réflexions, les propositions d'action que je vous propose pour justement faire en sorte que ces moments de doute qu'on traverse quand on reçoit des critiques ou autres soient un peu plus faciles à gérer. La première chose, et je pense que c'est hyper important, c'est de prendre le temps d'accepter d'être triste, d'être blessé, d'être touché. Très souvent, on se dit « Oh là là, cette personne m'a dit ça » ou en tout cas je doute par rapport à ça, mais je devrais pas parce que je devrais être heureux, etc. Il y a ce côté où j'aime pas trop le fait qu'on voit de la toxicité partout. Mais il y a parfois cette injonction à tout le temps être bien, tout le temps être heureux, etc. La positivité toxique, comme on l'appelle. Je suis pas certaine que ce soit à 100% ça. Je pense que de façon générale, on souhaite être bien, on souhaite être heureux. Quand on va bien, on va dire, quand on a une santé mentale équilibrée, quand les choses sont plutôt confortables autour de nous, c'est vrai qu'on cherche plutôt à aller vers la sérénité, le confort, le bien-être. Quand on est dans des processus d'autodestruction, là c'est encore un autre sujet. Donc de façon générale, on va plutôt chercher à aller bien. Donc c'est vrai que quand il nous arrive des moments de doute, des moments où on remet un petit peu tout en question, y compris nous-mêmes, ben en fait c'est pas du tout confortable, on a vite envie de sortir de là. Je vous dis pas de rester triste pendant longtemps, mais je pense que c'est important d'accepter finalement cette tristesse, cette frustration, de vraiment laisser l'émotion venir nous traverser. Et une fois qu'elle est traversée, ça va être important parce que si elle stagne, en fait, ça va prendre différentes formes. Vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche dans cette situation à apprendre et à comprendre ? Et ça va être super important. je vous reprends l'exemple de mes premiers partiels, j'étais super triste avant qu'ils arrivent, ou une fois qu'ils étaient passés, mais en attendant les notes, parce que je me disais, j'ai beaucoup, beaucoup investi de temps, d'argent, j'ai impliqué mon conjoint dans cette idée de reprendre des études. Donc il y a beaucoup de choses, enfin, il y a de la culpabilité, c'est un bougli-bougli de plein, plein de sentiments différents. Et en fait, ce qui est hyper important à ce moment-là, c'est vraiment, et moi c'est ce que j'ai fait à un moment parce que je me rendais compte que c'était vraiment en train de me tirer vers le bas, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai cherché en reprenant ces études? Et en fait, on en revient à cette idée, vraiment, moi, cette deuxième proposition que je vous fais ici, ça va être de se recentrer sur le pourquoi initial. Parce que très souvent, on n'a pas repris une formation pour faire plaisir à un formateur. On n'a pas repris un diplôme pour avoir une bonne note. On n'a pas choisi un métier pour que les collègues disent qu'on travaille bien. C'est pas ça qui importe en fait. Ça doit être des conséquences, si ça doit arriver. Mais parfois c'est pas grave si ça n'arrive pas en fait. Le plus important c'est pourquoi on s'est engagé dans ces projets. Moi, je sais qu'en reprenant les études et en allant dans l'ergothérapie, c'était pour avoir un pied dans le monde médical, paramédical, de mieux comprendre aussi comment accompagner les personnes. J'ai beaucoup, beaucoup développé cette partie-là. Le fait d'avoir une vision plus globale encore de la personne que j'avais touché un petit peu du doigt en naturopathie, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus grand. Je comprends, à mon échelle, hein, encore un petit peu plus de choses. J'ai envie de devenir ergothérapeute parce que je pense que ça peut apporter beaucoup plus de bien-être aux personnes que j'accompagne, y compris en yoga. Et en fait, c'est tout ça, c'est ces pourquoi finalement qui m'ont poussée à continuer à avancer et à me détacher en fait des résultats, à être vraiment plus dans un processus que dans un résultat. Chose qui est à voir, je vous avais, je pense, parlé de ma toute première formation de yoga. Je suis même pas sûre que je vous avais raconté cette histoire. J'ai tendance à vouloir plaire beaucoup aux autres, à ce qu'on me trouve gentille, etc. Et c'est un énorme problème, je trouve. J'essaie de me détacher de plus en plus de ça. Et j'avais envie que la prof m'aime bien, trouve que je faisais bien ce qu'il fallait faire. Et en fait, elle était plutôt critique vis-à-vis de moi. Et les deux premières semaines, je me souviens, j'étais vraiment dans un trou noir, quoi. Je me disais, mais c'est horrible, j'arrive à rien, je suis nulle, etc. Et je crois que ça s'est passé pendant une nuit. C'est l'avantage aussi hein, d'être un peu immergé dans une autre ambiance où il y a très peu de divertissement, etc. Je trouve que notre cerveau fonctionne mieux, on était en pleine nature. Je pense que tout ça joue aussi énormément. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce que le yoga, moi, ça m'a tellement apporté. Ça m'a... Je ne vais pas dire toujours le discours habituel, ça m'a sauvée, mais en quelque sorte, oui, ça m'a sauvée. En tout cas, ça a été un compagnon, et c'est encore un compagnon tellement important pour mon équilibre, pour ma santé, pour mon bien-être, pour ma spiritualité aussi. Que je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai envie de le partager. Et j'ai envie de le partager de ma façon, qui est une façon à moi, en fait. Et en me recentrant à ça, le lendemain, on a eu une pratique. Et à la fin de la pratique, elle me dit « Je t'ai sentie particulièrement présente aujourd'hui. » Et à ce moment-là, là où peut-être 3 jours avant, j'aurais sauté de joie à l'intérieur, à ce moment-là, j'ai réussi à accueillir ça de façon neutre. Et je lui dis, je pense que c'est parce que j'ai bien dormi. Et c'était vrai que la nuit précédente, j'avais bien dormi aussi. Et ce sentiment-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de retrouver pendant mes études. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper difficile. Parce qu'on a toujours envie que les formateurs, les formatrices disent qu'on fait du bon boulot. Pareil dans le milieu professionnel. Alors qu'au final, quand on réfléchit, c'est pas ça le plus important. Et donc, c'est hyper important de souvent revenir à son pourquoi on fait les choses. Et si on l'a pas noté, je pense que c'est hyper important de le noter pour l'ancrer, pour pouvoir y revenir. on sous-estime parfois, je pense, et moi la première, hein, l'importance de noter les choses. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je note, en fait, ça s'ancre plus. Et ça, c'est juste essentiel. Donc là, on va dire ces deux premières propositions d'action, le fait d'accepter sa tristesse et le fait de revenir à son pourquoi, c'est un peu plus travailler sur le fond. Vraiment travailler sur le fond, et je trouve aussi travailler sur notre état émotionnel. Maintenant, on va aller à un côté un petit peu plus superficiel, un petit peu plus technique, qui va être vraiment d'évaluer les capacités. Quand on doute, c'est souvent qu'on a l'impression qu'on ne fait pas bien. Donc, ça peut être lié à un manque de confiance en nos capacités. Donc, c'est très simple, pour le coup, d'analyser de la façon la plus neutre possible nos capacités. C'est très simple sur le papier. En réalité, en fait, ça peut être très compliqué, parce que dedans, il y a nos doutes, le fait qu'on se dise mais si je fais ça, c'est pas forcément très bien. C'est vraiment toujours avec notre filtre. Donc vraiment d'essayer, soit si on y arrive vraiment de les analyser avec beaucoup de recul et d'objectivité, si on n'y arrive pas, peut-être demander à quelqu'un qui nous connaît bien. S'il peut analyser, mais vraiment lui dire j'attends quelque chose d'objectif. Donc si tu mets du subjectif, etc., bah, tu le précises, mais je veux vraiment quelque chose d'objectif. Et vraiment observer nos capacités. S'il y a des capacités qu'on ne maîtrise pas encore, bah c'est très bien. Je vous renvoie sur le livre dont je vous parle trop souvent, je pense que vous allez en avoir marre, Mindset de Carol S. Dweck. C'est une chercheuse qui a travaillé justement sur les deux types d'état d'esprit qui peuvent exister, surtout dans le milieu scolaire, mais pas que. Hein. L'état d'esprit growth mindset, l'état d'esprit de croissance, qui va finalement être stimulé par le challenge et le fait de ne pas encore savoir. Et l'état d'esprit fixe, le fixed mindset, qui lui va vraiment penser que l'intelligence, c'est quelque chose de fixe, et que finalement, s'il est intelligent, tout ce qui va devoir lui arriver, il va falloir qu'il le réussisse, quitte à parfois choisir des choses qui sont un peu plus faciles pour lui, pour être moins face à de la difficulté et du coup être moins, confronté à l'échec. Donc on se rend vite compte que pour évoluer dans la vie et apprendre et progresser, ben en fait on a tout intérêt à switcher, à aller dans un growth mindset. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à avoir dans tous les domaines de notre vie, c'est quelque chose que parfois on a et parfois on n'a pas. Et c'est surtout quelque chose, et c'est ce qu'explique la chercheuse, qui peut se cultiver. Donc ça va être important quand on est face à des capacités qu'on ne maîtrise pas, de se dire « je ne les maîtrise pas encore ». Et de se dire aussi « chouette, c'est cool, à mon âge, peu importe l'âge qu'on a, ben en fait je ne maîtrise pas encore ça, et c'est plutôt chouette d'apprendre à gérer quelque chose à son âge ». Je vous partage un truc tout bête. La dernière fois, j'étais avec une patiente en gériatrie, et donc c'est des personnes qui viennent d'être opérées. Et donc en fait, elles ont des petites vessies de glace, comme des petites bouillottes, mais avec de la glace, pour soulager la douleur. Et là, il y avait une patiente qui était très douloureuse, et en fait, elle en voulait une seconde. Sauf que les aides-soignantes étaient déjà passées. Et elles étaient en pause, j'avais pas forcément envie de les déranger, et donc je leur demande où est-ce que je peux mettre de la glace. Et elle m'explique où est la machine à glace, sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à ouvrir la machine à glace. Donc du coup, j'y retourne, je la redérange. Et donc là, je lui dis, mais montre-moi, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Et en fait, c'était un truc tout bête. Moi, j'osais pas pousser parce que j'avais peur de casser le truc, mais en fait, il fallait juste pousser. Et hop, on avait la glace. Et donc là, je l'ai remerciée, elle m'a dit, bah oui, on en apprend tous les jours. Et moi, je dis, bah carrément, je me coucherai moins bête, je me coucherai avec une compétence en plus. Donc oui, de base, en fait, j'aurais pu avoir honte, parce que sur le coup, j'ai eu un peu honte, j'étais ah, franchement, je pourrais quand même savoir comment ouvrir une machine, mais c'est pas grave, la prochaine fois, je saurai. Je savais pas encore ouvrir la machine à glace. Et cet exemple ultra trivial, hyper bébête, je pense qu'on en a tous dans le quotidien, mais parfois, c'est difficile de dire qu'on sait pas. Bah finalement, rajouter le « je ne sais pas encore », ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider. Et parfois, je trouve que ça aide à accueillir les critiques de façon un petit peu plus positive aussi. Et quand on est dans un moment de doute, ça permet d'enlever le brouillard dont je vous parlais là, de ma première année. C'est-à-dire qu'on est dans le brouillard, on ne sait pas où on va. Ben, en fait, là, on enlève un petit peu les couches et on se dit, ok, je peux progresser là-dessus, je peux apprendre ça. Pour acquérir cette compétence, bah peut-être il faut que j'aille voir cette personne qui, elle, sait déjà faire et elle va m'apprendre. Et en fait, ça permet de voir des petits jalons, des petits cairns finalement sur son chemin et hop, on arrive à avancer de façon, je trouve, un petit peu plus sécurisée et sécurisante. Mais vous vous en doutez, pour faire tout ça, ça va être très important et c'est ma quatrième proposition. C'est pas toujours facile, mais c'est d'être bien entouré. Et je sais que parfois, suivant les projets qu'on prend, on va pas toujours avoir un entourage qui va être le plus bienveillant possible. Parfois, c'est le cas et franchement, c'est fantastique. Mais parfois, c'est pas le cas. Bah, on a la chance, je trouve, aujourd'hui, de pouvoir passer du temps, virtuellement, avec des personnes qui peuvent nous comprendre. Alors, c'est sûr qu'il y aura pas d'échange, mais au moins, on entendra un discours qui peut nous donner un petit peu plus de motivation, nous rendre un peu plus positifs. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas ça dans votre entourage direct ou même indirect par téléphone ou quoi, bah essayez de chercher, que ce soit sur YouTube ou dans des livres, des personnes qui peut-être sont passées par les mêmes phases que vous ou ont compris certaines choses et souhaitent le partager. Et en fait tout ça, ça va vous aider petit à petit à construire finalement comme une petite armure autour de vous. Parce que ça peut être très 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 compliqué d'être avec des personnes qui sont assez négatives. Ça peut tirer vers le bas. Donc c'est vrai qu'au plus vous êtes entouré, ou en tout cas vous êtes au contact avec des personnes qui vont vous envoyer de façon directe ou indirecte hein, des messages plutôt motivants, d'inspiration, en fait au plus ça va être simple pour vous de mettre en place tout ce qu'on a vu auparavant. La quatrième proposition, en la disant, je sais déjà que vous allez me dire que c'est pas toujours facile et je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça va être vraiment de privilégier une hygiène de vie la plus cool pour vous. Une hygiène de vie saine ou juste ou équilibrée vraiment dépend de beaucoup de facteurs. C'est important de savoir qu'est-ce qui vous équilibre, vous fait du bien, et de pouvoir agir en conséquence. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de s'y tenir, mais ça va être essentiel pour vous permettre de continuer en fait. Parce que si on dort mal, si on mange pas très bien, si on n'arrive pas à faire de l'exercice physique, si on n'a pas de moment pour se ressourcer, pour avoir des loisirs qui nous font du bien, ben en fait au bout d'un moment on va s'épuiser. Et c'est beaucoup plus difficile quand on est épuisé de traverser ces moments de doute ou de recevoir des critiques. Un exemple tout bête, le sommeil, il y a des études qui montrent que quand on dort pas bien, eh ben on va avoir tendance à voir de l'agressivité beaucoup plus systématiquement chez les personnes qui nous entourent. Alors que parfois elles sont pas plus agressives que ça, hein, mais c'est vraiment notre cerveau qui est pas capable de traiter correctement l'information. Donc prendre en compte tout ça et se rendre compte que c'est un petit peu la priorité, c'est essentiel. Mais c'est compliqué, parce que parfois quand on a notre cerveau qui est en boucle sur certaines choses, qu'on est vraiment en plein doute, ou qu'on est vraiment atteint, blessé, touché par certaines critiques, c'est vachement difficile de se dire « Allez, je vais bien manger, je vais bien dormir. » Mais quand on le fait, bah, on remercie un petit peu son corps, un petit peu beaucoup même, et en fait ça peut nous aider aussi, ça peut être une façon parfois de détourner l'attention de notre cerveau. Notre cerveau, il va finalement aller là où on lui indique d'aller. Si on est en boucle sur une chose, vous allez souvent remarquer que vous allez faire vraiment tourner votre vie autour de ça. Alors que quand on a quand même du temps pour aller marcher, respirer, faire de l'activité physique, etc., c'est un petit peu différent. Et enfin, la dernière chose, c'est plus par rapport au fait que on est toujours confronté à des personnes. Quand on est en formation, quand on est au boulot, peu importe. On a tous un ego. On a tous des personnes avec qui on s'entend bien, des personnes avec qui on s'entend moins bien. Il y a des choses qu'on comprend chez certaines personnes, des choses qu'on comprend moins. Et il y a des valeurs qu'on partage et des valeurs qu'on partage moins. Donc c'est vrai que quand parfois on reçoit certaines critiques, toujours se rappeler de qui ça vient. Ça veut pas dire que si la personne vous l'aimez pas, bah, il faut surtout pas tenir compte de ce qu'elle dit. Ça veut simplement dire que parfois, il va y avoir des personnes qui vont se projeter. Et inversement, et on fait des transferts, etc. Nous, c'est quelque chose qui est très fréquent hein, dans le milieu médical, paramédical. C'est évident que si, je sais pas, demain, je reçois un patient qui me fait penser à mon père, bah, je sais pas pourquoi, mais je vais être quand même un peu plus attachée à ce patient. Je vais peut-être plus passer sur certaines choses. Si en gériatrie, je vais avoir une dame qui va me faire vraiment penser à ma grand-mère, ben, je vais avoir tendance à être peut-être encore plus douce ou me dire bah, je peux bien quand même passer un peu plus de temps avec elle, alors que là, ce que je fais à ce moment-là, c'est plus finalement de l'accompagnement émotionnel qu'autre chose, ce qui est important. Hein. Mais peut-être que si je le fais, c'est parce que je fais un transfert. Bon, bah, il y a aussi des transferts qui sont faits. Hein. Quand on est formé, quand on est étudiant face aux formateurs, aux formatrices. Donc, toujours avoir ça en tête. Pareil dans le milieu professionnel, avec ses collègues, ses supérieurs, il y a des choix qu'on fait qui peuvent ne pas faire plaisir à tout le monde. Dans le domaine professionnel, par exemple, si demain, je choisis, spoiler alert, c'est ce que je fais, mais je choisis de faire placer mon équilibre de vie avant une carrière ou quoi, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais c'est ok. Et c'est hyper important d'être à l'aise avec ses choix. Donc c'est hyper important, je pense, de se réaligner, peu importe ce qui arrive, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos priorités, au domaine qu'on choisit de vraiment investir dans notre vie, et d'accepter cela, et de vivre en fonction de ces choses. Du coup, face au moment de doute, on aura peut-être un peu plus tendance à faire la part des choses. C'est-à-dire à comprendre finalement ce qu'on garde, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir évoluer, ça va nous apporter des choses, et ce qu'on met de côté. Parce qu'on se dit, bah, finalement là, ça naît dans un endroit qui n'est peut-être pas si bienveillant que ça envers moi. Et c'est toujours très très important de l'avoir en tête. Je vais vous partager, c'était à la toute fin de mes études. On avait fait le PRAP, la prévention des risques liés à l'activité physique. C'est un petit peu tout ce qui va être prévention des troubles musculosquelettiques au travail, des risques psychosociaux, etc. Moi, c'est un domaine que j'adore. De toute façon, je pense que vous l'avez perçu, vous l'avez compris. Et en fait, je me suis vraiment donnée à 200%. Et c'était vraiment finalement la dernière chose qu'on devait rendre, et là où j'aurais pu être un petit peu plus tranquille, j'avais vraiment envie de fournir quelque chose de bien ficelé, etc. Et du coup, on devait faire une petite scénette où en fait on présentait un projet et les personnes qui étaient en face de nous, donc nos élèves et la formatrice, enfin nos élèves, nos camarades de classe et la formatrice, étaient jouer le rôle d'une structure où il y avait quelqu'un qui était là pour investir, des soignants, etc. etc. À la fin, mes camarades de classe ont été bien sûr trop mignons, ils m'ont pas du tout mis en difficulté, très cocooning, très bienveillant. Et par contre, ça a été la formatrice qui a vraiment cherché à me pousser dans mes retranchements. Et en fait, j'ai tenu bon, c'est-à-dire que je ne me suis pas laissée déstabiliser, j'arrivais à lui répondre, etc. Mais en fait, sur le coup, j'étais pas contente qu'elle fasse ça, mais j'étais bien dans mon truc, voilà, j'avais pas de soucis. Mais elle y allait un petit peu fort quand même, et j'avais quand même des arguments. Et donc à la fin, je me rassois, et puis on échange un petit peu avec mes camarades, et je dis, bah, quand même, elle y allait un peu fort. Et tout le monde me dit, oui, mais t'inquiète, t'as bien répondu et tout. Mais en fait, au fur et à mesure que les autres passaient, elle avait pas du tout la même attitude. Elle était beaucoup plus douce, ou parfois, elle réagissait pas du tout. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai travaillé comme une folle, et en fait, ça va pas passer. Alors que, vraiment, elle n'avait rien dit, elle avait juste joué le rôle qu'il fallait qu'elle joue. Et c'est moi, mon petit mental, pour dire à quel point le mental peut très bien faire sa popote dans son coin. Et à la fin, du coup, elle a compris, parce que je pleurais, bon bref. Et puis après, elle est venue me voir. Non, je crois que c'est mes camarades qui ont dit, non mais là, elle va pas bien, Isabelle, il faut que vous alliez la voir. Et donc, elle est venue me voir. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, c'est juste que je pense que je suis fatiguée en fait et j'ai pas réussi à comprendre finalement pourquoi est-ce que vous cherchiez tellement à me confronter. Et finalement, quand les autres groupes, j'ai vu que c'était pas du tout pareil, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Parce que j'avais de quoi répondre. Et elle m'a dit, mais justement, c'est parce que je te sentais à l'aise que j'ai eu envie de te pousser un petit peu plus. Et je l'ai remercié de m'avoir expliqué ça, parce que en effet, c'était très formateur ce qu'elle a fait au final. Mais c'est juste que j'avais pas compris son intention. Et parfois, il y a des personnes qui vont un petit peu nous pousser, parce que c'est dans leur tempérament en fait. C'est peut-être des personnes qui ont besoin elles-mêmes de ça. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les pousse vraiment dans leur retranchement pour évoluer. Il y en a qui ont besoin qu'on les pousse, mais d'une façon un petit peu plus bienveillante, en les accompagnant doucement, en leur montrant certaines choses. Et il y a des personnes qui vont plutôt privilégier le confort. Donc il faut voir finalement où est-ce qu'on se place, ce qu'on accepte aussi, parfois ce qu'on n'accepte pas ou plus difficilement. Il faut aussi tenir compte toujours de son état émotionnel. Il y a des moments où on est plus à même en fait hein, de recevoir la critique ou d'assumer des moments de doute que d'autres. Donc c'est toujours très important qu'on soit dans le statut de la personne qui donne la critique ou qui la reçoit aussi d'expliquer. Et je pense que parfois, c'est important de dire les choses. Et après ça, ma formatrice, quand on a dû repasser, parce qu'on avait plusieurs étapes, elle disait, bon, bah là, si je cherche à vous titiller, c'est vraiment, voilà, pour vous faire évoluer dans votre pensée, si je sens qu'il y a quelque chose à creuser, etc. Et en l'explicitant, bah, à chaque fois que ça s'est passé, bah, finalement, on a tous réagi beaucoup mieux, et moi y compris, parce que j'avais compris finalement ce qu'elle attendait de nous et comment elle voulait nous accompagner dans notre évolution et dans nos progrès, parce qu'il faut aussi tenir compte de ça. C'est dans l'inconfort qu'on progresse. Mais cet inconfort, bah, on peut parfois l'avoir de façon très 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 différente, de le vivre de façon très différente. Et je pense aussi, c'est quelque chose de très important, qu'on peut aussi, c'est très difficile, hein, mais ne pas accepter certaines choses. Je pense, dans l'idéal, que quand on est face à de l'injustice, à de la méchanceté, parfois à de la jalousie, peut-être que le fond du message, en effet, est juste et peut nous faire progresser, mais on n'a pas à humilier, entre guillemets, je prends un grand mot hein, pour ça, ou à humilier ou à rabaisser une personne pour lui faire passer un message. Et quand on est victime de ça, c'est hyper compliqué, hein. Mais quand on est victime de ça, c'est très important d'arriver à faire entendre sa voix et dire je n'apprécie pas qu'on me parle sur ce ton, je trouve ce terme un peu fort et pas forcément très juste pour expliquer en termes de je ressens ça, pas accuser l'autre d'eux, hein, mais vraiment repartir de soi, de son sentiment. Mais pour ça, c'est très important de connaître ses limites et d'arriver à les accepter et d'arriver à vivre avec ses limites. Donc voilà, donc c'est des propositions, vous l'avez vu, qui ne sont pas toujours très faciles à mettre en place, mais qui en tout cas peuvent aider, moi, m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui parce que, et ça va être la fin de ce podcast avec cette dernière partie, c'est important de penser à la suite. Car quand on est dans une formation qui va s'accompagner de beaucoup de doutes, de remises en question, c'est comme si on devenait, comme si on changeait de mue en quelque sorte. Hein. On acquiert de nouvelles compétences, donc on change, on se transforme. Mais c'est pas un but en soi. C'est-à-dire qu'avoir une formation, obtenir un diplôme, et moi je l'ai vraiment perçu, que ce soit en yoga, en naturopathie ou là en ergo, c'est qu'une étape. C'est la suite qui va tout déterminer. C'est l'expérience hein, qu'on vit au fur et à mesure qui va modeler, modifier aussi nos projets professionnels pour nous mener à quelque chose qui nous ressemble le plus. On revient à notre pourquoi. Hein. C'est toujours important de se dire, ok, cette formation, cette phase de doute sert un projet plus grand, plus grand que moi aussi, et de se raccrocher à ce projet pour avancer, pour naviguer malgré les doutes, pour mettre aussi de côté certaines personnes, hein, même dans notre entourage professionnel ou scolaire, qui peuvent ne pas partager les mêmes valeurs que nous. Et c'est très 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 important de se reconnecter à finalement pourquoi est-ce qu'on est dans cette galère. Et ça, c'est parfois quelque chose qui est très très difficile à appréhender, parce qu'on a l'impression qu'il faut entre guillemets souffrir, mais la souffrance est vraiment optionnelle. Et se dire aussi que peu importe à quel point on s'investit dans une formation, ce n'est pas un but en soi. Quand j'ai eu mon diplôme d'ergothérapeute, j'ai pas réalisé tout de suite, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais c'est après en fait que le vrai travail commence. C'est après qu'en fait on est confronté à certaines choses. Et franchement, aujourd'hui, même par rapport à mon projet professionnel, là ça fait 7-8 mois que je travaille, au final je me rends compte qu'il y a déjà des choses qui ont évolué et ça va continuer d'évoluer. Et par rapport à la naturopathie, je vous en avais déjà parlé, hein. Mais c'est vrai que c'est en me confrontant à la réalité sur le terrain que je me suis dit « je ne peux pas faire ça dans ces conditions ». Donc c'est toujours hyper important de se dire que la formation, c'est une étape. Nos doutes, ils font partie du chemin, mais nos doutes par rapport à quoi? Et ça, c'est toujours super important de se dire « ok, est-ce que là je doute par rapport vraiment à la finalité du projet? J'ai peut-être plus envie de faire ce métier ?» Ou finalement la façon dont je fais là actuellement ne me convient pas, ou c'est des doutes par rapport simplement à une méthode d'enseignement. Eh bien, c'est pas du tout la même chose et ça va pas du tout être accueilli de la même manière, ni par vous, ni par votre entourage. Donc toujours avoir ça en tête, hein, que ces moments de doute, c'est une étape. Cette formation que vous faites, ce projet que vous faites, ce boulot que vous faites, c'est une étape. Ça n'a pas à définir notre vie. Parce que finalement, garder un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est ça qui a vraiment de la valeur. Pas une note, pas forcément un boulot, pas forcément une étude, pas forcément une formation. Donc toujours avoir ça en tête, je trouve que ça permet de relativiser un petit peu les choses et de remettre aussi les priorités à leur juste place. Parce que parfois, on accorde trop d'importance finalement à des choses qui ne nous définissent pas et qui ne nous font pas grandir. Et si on en revient à la Bhagavad Gita, peut-être que parfois on s'attache trop aux fruits de nos actions, alors que le plus important, c'est nos actions. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, j'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. Très personnel, hein, vous l'avez bien compris. Maintenant, vous savez que je sais utiliser la machine à glace, mais il y a encore plein de choses que je ne sais pas faire. Donc voilà, donc peu importe vos petites machines à glace du quotidien, mais apprenez, c'est ça le plus important. La vie des autres, souvent, finalement, c'est pas si important que ça. Même si l'autre, c'est un professionnel à côté de nous, même si l'autre, c'est notre supérieur, même si l'autre, c'est notre formateur. Je pense que c'est toujours mieux, en fait, de remettre les choses à leur juste place et de revenir à ce pourquoi vous faites les choses et surtout vos valeurs. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai trop hâte de vous lire en commentaire, que ce soit en message privé, en mail, en petit commentaire sur Instagram, en DM ou quoi. N'hésitez pas. Merci beaucoup et surtout merci Jeanne qui nous écoute souvent à vélo ou autrement, mais j'ai été ravie que tu me fasses confiance pour cette question et que tu m'autorises du coup à faire un épisode d'après cette question. Merci de m'inspirer au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe au moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous.